toutes et à tous.
5h sur Europe 1.
Une foule dans les pubs à Londres. C'était hier soir la réouverture de tous les restaurants et les cafés célébrés comme dans toute l'Angleterre. Reportage de notre envoyé spécial dans quelques secondes. En France, les élections régionales et départementales auront bien lieu en juin. Décision de l'exécutif. Et puis nous serons aux États-Unis. Vive tension après qu'un jeune homme noir a été tué par une policière qui pensait utiliser son taser. Drame à Minneapolis où se tient en même temps le procès du policier qui avait tué George Floyd en l'étouffant.
Les sports à suivre, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs. Nous serons dans les Landes tout à l'heure chez notre éleveur. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après l'hiver du confinement, les Anglais ont humé hier soir comme un parfum de printemps. La réouverture des pubs était prévue de longue date, inscrite au calendrier, et celui-ci a été respecté, tout comme d'ailleurs celui de la vaccination. Désormais, près de 60% des adultes du pays ont reçu une première dose de vaccin. Cela faisait donc deux bonnes raisons de trinquer hier à Londres. Théo Manval, pour Europe 1, s'est mêlé à la fête aussi prudemment que possible.
Le soleil est couché, les terrasses sont bondées, mais les Londoniens disciplinés restent sagement attablés.
Ça fait quelques heures qu'on est là.
On a eu 6 bières chacune. Non, 8. 8 bières chacune. Ça fait du bien de voir des gens différents, de ne plus être enfermés.
Sauf qu'immanquablement, plus Grace et Carly empilent les verres, moins elles appliquent les gestes barrières.
Il faut faire attention. Très attention. Bien garder les distances.
Poussez-vous les amis. C'est sûr, ça va mal finir, mais on en a besoin.
Ce qui rassure Rachel à la table à côté, c'est que comme 60% des gens, elle est désormais vaccinée.
J'ai eu ma dose il y a deux jours, mais j'ai de la chance, c'est parce que je suis policière.
Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde, relève son voisin parmi le public qu'on trouve ici.
Je ne crois pas que ça change grand-chose, parce que les gens de mon âge, on n'a pas été vaccinés. On a 30 ans, si mes parents étaient là, ce serait plus sûr pour eux, mais pour nous, je ne vois pas l'impact.
Ce qui fait déjà dire aux scientifiques qu'il y aura un rebond des contaminations. Les chiffres d'hier sont déjà les moins bons du mois d'avril. Londres, Théo Manval, Europe 1.
Voilà, fallait pas être frileux non plus parce que je crois qu'il fait pas si chaud à Londres. Et c'est en terrasse, mais c'est déjà pas si mal, évidemment. En France, on se pose cette question ce matin. Quand saura-t-on si le troisième confinement que nous vivons aujourd'hui est efficace?
Dans les 20 départements où des mesures restrictives avaient été prises dès le 20 mars dernier, on observe une baisse des indicateurs. Alors, au niveau national, Victor Delande, concrètement, à partir de quand va-t-on savoir si ça va dans le bon sens?
Alors on devrait en savoir beaucoup plus à la fin de cette semaine, car pour observer une stabilisation des indicateurs après la mise en place d'un confinement, il faut généralement 2 semaines. Et l'indicateur qui sera regardé avec beaucoup d'attention, c'est le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes que contamine un seul malade. Quand il est au-dessus de 1, l'épidémie continue d'augmenter. Avec les mesures prises depuis 10 jours, plus les écoles fermées, il pourrait redescendre aux alentours de 0,7. Dans cette projection optimiste, l'épidémie reculerait rapidement, comme l'explique l'épidémiologiste Antoine Flao.
Si ce taux est autour de 0,7, c'est des chiffres que l'on a vus par exemple au Portugal récemment, alors on peut espérer une diminution par 2 du nombre de nouvelles contaminations toutes les semaines. C'est-à-dire qu'il faudra 3 semaines supplémentaires pour mener les nouvelles contaminations de 40 000 à 5 000 cas par jour.
Dans ce scénario, la France se retrouverait donc avec 5 000 nouveaux cas par jour autour du 10 mai, un niveau raisonnable pour bien remonter les chaînes de contamination. En revanche, si le confinement est moins efficace et que le taux de reproduction se situe à 0,9 à la fin de cette semaine, il ne faudra plus 3 semaines, mais 3 mois pour revenir à ces 5 000 contaminations quotidiennes.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
C'est la fin d'un feuilleton politique entre l'exécutif, l'opposition et une grande partie des élus locaux. Les élections régionales restent finalement programmées aux dates prévues.
Les 13 et 20 juin prochains, les maires de France ont été consultés par mail ce week-end. 56% ont souhaité le respect du calendrier et Louis Dragnel, le gouvernement les suit.
Oui, c'est un peu la fin d'un supplice chinois. Les élections régionales et départementales auront bien lieu les 13 et 20 juin prochains. Jean Castex doit annoncer cette décision tout à l'heure devant les députés avant de se prêter au même exercice demain au Sénat. Après avoir longtemps tergiversé, le gouvernement a donc eu besoin de l'avis des maires pour trancher. Il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron était le premier, il y a quelques semaines, à vouloir reporter le scrutin en septembre ou en octobre, là où son Premier ministre Jean Castex plaidait pour un maintien des dates. Reste à savoir maintenant comment se dérouleront la campagne et l'élection. Campagne par visio, distribution des tracts sur les marchés, dans les bureaux de vote, assesseurs vaccinés ou testés, nombre de procurations par votant, autant de nouveaux arbitrages que doit désormais rendre le gouvernement.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe.
5h05, situation très tendue à Minneapolis aux États-Unis. La ville est sous couvre-feu et un millier de soldats de la garde nationale sont déployés face à des craintes de débordement.
Et ce, après la mort d'un jeune afro-américain, Dante Wright, tué d'une balle tirée par une policière lors d'un contrôle routier. Alexis Guilleux, vous êtes aux États-Unis pour Europe 1. La police parle d'un accident en s'appuyant sur les images de la caméra portative de cette agente.
Oui, et sur ces images, tout se joue en moins d'une minute. On y voit Dante Wright sortir de sa voiture, interpellé car il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il résiste au moment où un premier policier essaie de le menotter. Il parvient même à remonter dans son véhicule. C'est là que la policière s'approche, elle sort son arme, hurle à plusieurs reprises « Taser, taser, taser ». La balle part et on l'entend immédiatement s'écrier avec effroi « Je lui ai tiré dessus », comme si elle réalisait qu'elle venait d'utiliser son arme à feu et non son taser. Dante Wright meurt quelques minutes plus tard et la policière a été placée en congé le temps de l'enquête.
Alexis, il y a bien sûr le contexte. En ce moment, se tient le procès du policier accusé du meurtre de George Floyd l'an dernier dans cette même ville de Minneapolis.
Oui, effectivement, le procès de Derek Chauvin se tient à une dizaine de kilomètres du lieu de la mort de Dante Wright et la tension est vive dans la région depuis le début des audiences. Dimanche soir, des échauffourées ont éclaté aux abords des locaux de la police de Brooklyn Center. Hier, les mesures de sécurité ont été renforcées. Cours à distance pour les écoliers, commerces barricadés, rencontres sportives reportées. Un couvre-feu est imposé jusqu'à 6 heures ce mardi matin et la garde nationale déployée à quelques intersections majeures. Joe Biden a lui lancé un appel au calme depuis Washington. C'est une mort tragique, mais rien ne justifie les pillages.
Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1. C'est un calvaire que décrit le français Fabien Azoulay, emprisonné en Turquie depuis 4 ans, condamné en 2017 à 16 ans de détention. Ses avocats et ses proches se battent pour qu'il soit rapatrié. Ils ont décidé d'ailleurs de médiatiser l'affaire pour faire pression sur les autorités françaises, le Quai d'Orsay et l'Elysée. François Zimeray, son avocat, demande son transfert en France dans les meilleurs délais car sa vie est menacée.
Il faut imaginer le sort d'un Français juif homosexuel dans une prison turque où tout le monde parle arabe et il ne parle pas la langue. Cela fait mille raisons pour lui d'être persécuté, d'être harcelé, d'être en butte aux vexations et plus. Et on peut imaginer la dureté de la vie en prison. On a longtemps cru en la justice turque et on a joué le jeu. Et avec Carole Olivia Montenot, qui est une excellente avocate qui s'est battue depuis le début pour le faire sortir. D'ailleurs, les raisons pour lesquelles il était condamné restent un grand mystère. Une peine si sévère pour un délit somme toute mineur. On a essayé tout ce qui pouvait être tenté. Et nous sommes parvenus au constat que si son sort tragique n'était pas porté à la connaissance du public, alors il n'y avait rien à attendre. Je sais que les relations entre la France et la Turquie sont dégradées, mais il ne faudrait pas que Fabien Azoulay en fasse les frais et soit une victime collatérale de cette relation douloureuse.
Maître François Zimeray au micro de Mathieu Bock.
C'est devenu un standard de la chanson française, les feuilles mortes de Jacques Prévert, chantées par Yves Montand. Et en 1961, Serge Gainsbourg s'en était inspiré avec sa chanson de Prévert.
Oui, nous voilà donc 60 ans après. Et voilà que le cinéaste Michel Gondry rend hommage à Gainsbourg. Ce soir, à 18h, il dévoilera un mini-film d'animation, une sorte de clip. Michel Gondry a révélé les contours de ce court-métrage mélancolique à Angèle Châtelier.
Et chaque fois, les feuilles mortes.
C'est une chanson qui est magnifique parce qu'elle, il y a deux niveaux. Il y a Prévert, un peu enfantin, et il y a Gainsbourg qui utilise ça pour un sentiment très négatif, très nostalgique.
N'en finissent pas de mourir.
On retrouve beaucoup ces sentiments dans votre film d'animation.
On suit le parcours d'une petite feuille morte qui se promène dans différents décors et à chaque fois qu'elle touche un objet ou un animal, cet objet ou animal vieillit en accéléré. Ah, c'est pas joyeux, hein, mais bon.
Jour après jour.
L'animation, ça fait passer un petit peu le côté dur. Je fais beaucoup de films d'animation pour ma fille qui me donnent des titres insensés et je trouve des histoires et je les anime et puis je lui envoie.
Et ce jour-là, mes amours mortes.
Voilà, Serge Gainsbourg et ce soir à 18h, hein, on regardera ce clip de Michel Gondry.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 5h10. Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le journal des sports, et on parle de foot évidemment, c'est le choc ce soir, PSG-Bayern.
Oui, quart de finale retour de la Ligue des Champions avec le PSG, son petit matelas d'avance, acquis au match aller. On rappelle la victoire 3-2 à Munich. Ce soir, c'est au Parc des Princes que tout se joue, mais les Parisiens ne veulent évidemment pas mettre la charrue avant les bœufs. Écoutez le défenseur Presnel Kimpembe.
On n'y pense pas forcément, mais voilà, c'est sûr que de pouvoir éliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand. Surtout que c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc voilà, beaucoup de respect pour eux, mais voilà, ce serait quand même très bien de notre part de pouvoir faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification.
Presnel Kimpembe, interrogé par Julien Froment, il sera le patron de la défense parisienne en l'absence du capitaine Marquinhos, mais avec Kylian Mbappé qui avait montré tout son talent au match aller, ce que n'a pas oublié Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich.
Kylian Mbappé, je suis sûr qu'il aura un jour le ballon d'or, parce qu'il a tout. Il est super rapide, il a une magnifique technique, et le plus important, il marque des buts. Pour son âge, il est très mature, j'adore le regarder.
Hansi Flick avec Cyril de la Morinerie, le Bayern toujours privé de Lewandowski, de Gnabry également. Le défenseur Soulé s'est ajouté aux joueurs déjà indisponibles. Coup d'envoi 21h pour cette rencontre, mais dès 20h, vous retrouvez Lionel Rousseau et toute son équipe pour l'avant-match sur Europe 1. Avec une journée pleine de fébrilité, on l'imagine, pour les supporters du PSG.
Le chiffre du jour, et pourtant ces supporters peuvent être rassurés, hein, parce que ce chiffre du jour c'est 95.
Voilà, c'est le pourcentage de chances de se qualifier après une victoire 3-2 à l'extérieur au match aller. 97% là, c'est celui favorable à Chelsea qui accueille Porto après une victoire 2-0 à l'aller. Et puis j'ajoute que l'équipe de France féminine, elle, sera sur les terrains également ce soir. Elle joue en amical face aux États-Unis.
Le sport n'est pas toujours des statistiques, donc nous verrons.
Non, tout mais à nous sommes très fébriles
ce soir. Le tennis à Monte Carlo, et la pluie ne sourit pas aux Français.
Oui, là c'est 0-0. Hein. Entre les gouttes, Hugo Humbert, le numéro 2 français, éliminé d'entrée par l'Australien Milman, un jour sans pour le 32e joueur mondial qui est passé complètement à côté de son match, il le sait.
Bah, c'est sûr que quand c'est lourd comme ça, c'est pas des conditions qui m'avantagent. Donc non, j'ai été mauvais, c'est un match à oublier. Bah, je me suis un peu perdu, quoi. J'étais pas dans mon identité. Mon identité, c'est de frapper fort, c'est de faire des coups gagnants, c'est de tenter des choses, c'est de produire du jeu. Bah, là, j'ai poussé pendant 2 sets, donc il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc, ouais, j'ai été mauvais. Hein.
Voilà, mauvais, Hugo Humbert, il l'admet avec Corinne Boulou. Et puis après le report de Roland-Garros, celui-ci concerne les 24 heures du Mans Moto qui finalement auront lieu les 12 et 13 juin. Elles auront lieu à huis clos.
Merci Lénaïque Meunier, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et nous découvrons à présent le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 309 Rocket Action. Il effectuera un long déplacement depuis l'Angleterre, plus précisément Newmarket, le centre d'entraînement basé non loin de Londres. Et croyez bien qu'en cette période de pandémie, son entraîneur Robert Cowell n'effectue certainement pas un aussi long voyage sans avoir quelques certitudes. D'ailleurs, l'été dernier, ce Rocket Action était déjà venu faire une incursion à Deauville, où il n'avait été battu que d'une courte tête face à une opposition peut-être plus relevée que celle de cet après-midi. Notez bien, pour Chantilly, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 9, Rocket Action.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve tout à l'heure pour les pronostics du Quintet. Europe 1. 5h14 sur Europe 1, on va ouvrir les journaux, c'est notre pressing du matin, les histoires que nous avons repérées dans la presse. Quelle est la vôtre, Ambline ?
La recherche avance et on s'approche un petit peu plus d'un vaccin contre le VIH, le virus à l'origine du sida. Des résultats prometteurs ont été obtenus contre ce virus qui change tout le temps de visage.
Ouais, on l'oublie aussi, mais la Il recherche contre présent. Le vaccin avance. Contre le VIH, on en parle dans un instant. À tout de suite, 5h15.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Les élections régionales et départementales auront bien lieu aux dates prévues les 13 et 20 juin prochains. Le gouvernement se range à l'avis des maires. 56% d'entre eux le souhaitent. Le gel qui a ravagé des centaines de milliers d'hectares ces derniers jours est probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début de 21e siècle, estime le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui envisage la création d'un fonds exceptionnel pour compenser les pertes de revenus. Match de basket annulé en NBA, couvre-feu et garde nationale déployée à Minneapolis aux États-Unis. Pour un risque d'émeute, un homme noir de 20 ans a été abattu dimanche d'une balle par une policière qui pensait faire usage de son taser. Joe Biden appelle au calme.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing ce matin avec Omblin Roche et Martin Lange. On ouvre les journaux. Commençons par les unes avec d'abord une image d'espoir qui fait la une de Sud-Ouest au Royaume-Uni. C'est ouvert, titre le journal bordelais, avec l'image d'un commerçant qui rouvre sa boutique qui était fermée depuis la fin du mois de décembre. En France, situation toujours tendue à l'hôpital. La Dépêche du Midi raconte le calvaire des patients dont les opérations sont repoussées. La Voix du Nord vous fait le mode d'emploi de l'hôpital. L'autotest et le progrès de Lyon pointent la difficulté à faire décoller la vaccination AstraZeneca. Des doses, mais pas de candidats, titre le journal. La politique à la une et la date des élections régionales, maintenue en juin, je vous le disais, c'est la une du Figaro. Libération raconte déjà un duel pour la présidentielle, cette fois-ci Hidalgo Macron. Libération raconte des années d'animosité entre ces deux personnalités politiques. Pourquoi ils se détestent, titre le quotidien à la une. Vos journaux reviennent aussi sur la situation en Haïti après l'enlèvement d'une religieuse et d'un prêtre français. Le chaos politique pour Ouest-France, le chaos sécuritaire pour La Croix. Enfin, le Parisien pose l'enjeu de ce PSG Bayern de ce soir. Pour devenir grand, c'est la une du quotidien, au Parc des Princes, un jardin à réenchanter, estime l'équipe. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention. Omblin, un espoir de vaccin, cette fois contre le VIH.
Oui, quand on parle de virus et de variants, on sait maintenant tous de quoi il s'agit. On est tous docteurs et sciences en matière de variants. Concernant le
tous
COVID...
épidémiologistes.
Voilà, concernant le Covid-19 justement, quelques variants du virus ont été repérés en France. Hein, l'anglais, le sud-africain, le brésilien, il y en a d'autres. Savez-vous combien il existe de variants et de souches de virus du sida? Des milliers. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de trouver un vaccin, parce que c'est une course contre la montre. Le VIH mute, il change de visage très rapidement, donc le vaccin s'avère obsolète quand il est inoculé. On apprend que dans le Figaro qu'après 30 ans de recherche, un vaccin semble enfin à portée de main. Un essai clinique en phase 1 a été mené sur 48 patients par des chercheurs de l'Institut de recherche américain Scripps et par l'Initiative internationale pour un vaccin contre le sida, et sur ceux ayant reçu la dose de vaccin. Alors c'est bien une injection de vaccin, ils n'ont pas été exposés au virus. Eh bien, il y a eu une réponse immunitaire dans 97% des cas. Il faut évidemment rester prudent. Si le système immunitaire a bien été activé, cela ne prouve pas encore que le patient ne sera pas contaminé par le VIH. Mais ces résultats sont très encourageants. L'objectif est donc de trouver le processus de fabrication par notre organisme d'anticorps à large spectre, incapable de combattre une gamme importante de souches virales et de variants, de démasquer le virus à l'origine du sida, même lorsqu'il change d'enveloppe. Et les chercheurs souhaitent s'associer au laboratoire américain qui a développé le vaccin Moderna contre le Covid-19. Ils se sont rendus compte que la technologie de l'ARN messager pourrait être très utile pour d'autres agents pathogènes dans le VIH. C'est la technologie aussi utilisée par le vaccin de Pfizer.
Ouais, l'ARN messager qui est une révolution scientifique.
Exactement.
Hein, sur plusieurs
et plans. Ça concerne le VIH, ça concerne aussi la dengue, le Zika, etc. L'espoir de trouver un vaccin contre le sida est bien ravivé. La recherche doit bien sûr se poursuivre. C'est-à-dire dans le Figaro.
Moi, je lisais dans le Parisien ce matin ces témoignages de chauffeurs de VTC touchés de plein fouet, évidemment, par le contexte, les mesures sanitaires, et qui racontent des journées sans clients ou presque, des heures à attendre parfois une course hypothétique entre le télétravail généralisé, le tourisme à l'arrêt, la fermeture des commerces et le couvre-feu depuis des mois maintenant. Eh bien, Christelle, qui conduit son VTC à Paris, ne s'est pas versé de salaire depuis un an maintenant. Le journal donne des chiffres de la plateforme Eurecab qui a sondé ses chauffeurs. Pour les deux tiers d'entre eux, le chiffre d'affaires a baissé de plus de 80%. Parfois, c'est une journée de 15 heures pour juste 30 euros de recettes, témoigne un de ses chauffeurs. Certains restent à leur domicile, connectés à leur application en attendant une éventuelle course plutôt que d'attendre dans la voiture. D'autres ont carrément abandonné, voiture au garage. Alors, ils peuvent toucher le fonds de solidarité. 1 800 euros par mois pour couvrir les charges fixes, rembourser la voiture, payer l'assurance. Mais les tout derniers arrivés, ceux qui se sont installés par exemple, qui se sont lancés en 2020, eux ne peuvent rien toucher parce que ces aides, elles sont basées sur le chiffre de 2019. Donc il faut avoir un chiffre d'affaires en 2019. Alors ils sont nombreux à se tourner déjà vers un deuxième métier, vers une autre activité. 40% y pensent, 20% ont déjà franchi le pas. Voilà pour ces chauffeurs VTC. Vraiment dans le dur de la crise, on en a peu parlé, mais c'est vrai que c'est une activité complètement à l'arrêt, et c'est à lire dans le Parisien ce matin. Martin, on va terminer avec vous et on va aller aux États-Unis.
Oui, avec un acteur, peut-être futur président. Je vais un peu vite en besogne, hein, mais un sondage révélait ce week-end que près d'un Américain sur deux, 46% exactement, était prêt à voter pour Dwayne Johnson lors des prochaines élections présidentielles.
C'est un acteur, lui.
Exactement.
Un ancien catcheur aussi.
Tout à fait. Vous me feuillez toutes mes... C'est le Huffington Post hein, qui revient sur cette enquête réalisée quand même auprès de 30 000 Américains. Dwayne Johnson, c'est donc The Rock, hein, cet ancien catcheur au physique de déménageur qui joue dans des films à gros budget, hein, Jumanji, Voyage au centre de la Terre ou encore Fast and Furious.
Voilà ce que je te propose. Seulement nous deux, à un contre un, sans personne d'autre autour. Et ce jour-là, avec mes petits poings, je prendrai ta gueule pour un tap-tap.
On imagine la campagne électorale, ça va être sympa.
Voilà, il y a un peu de testostérone.
Donc, il veut faire de la politique, ce garçon.
Bah, en tout cas, lui, il prend ce sondage très sérieusement. Il a même exprimé sa fierté sur Instagram. Je ne pense pas que nos pères fondateurs aient imaginé qu'un gars d'1m93, chauve, tatoué, moitié noir, moitié Samoan, rejoigne leur club. Mais si cela devait se produire, ce serait un honneur de vous servir. Hein. Ce n'est pas la première fois que The Rock parle de ses ambitions politiques. En février dernier, dans une interview pour USA Today, il avouait même penser à la présidence en se rasant.
Ah bon? Il y a d'autres qui ont dit ça et ça leur a plutôt réussi. Alors, c'est sérieux cette histoire ou pas?
Alors, ce qui semble vraiment dingue, c'est que les Américains soient prêts à voter pour lui. The Rock n'est pas la seule star américaine que les électeurs imaginent à la Maison-Blanche. Dans le même sondage, 30% de ces électeurs interrogés se disent prêts à voter pour Angelina Jolie et 22% pour Tom Hanks. Alors, un acteur président, hein, ça ne serait même pas une première aux États-Unis. En son temps, Ronald Reagan avait connu une brillante carrière à Hollywood avant de rejoindre le bureau ovale.
Bah oui, et Arnold Schwarzenegger. Là, pour le coup, on est sur le même profil.
Tout à fait.
Bah, gouvernement californien.
Gros biceps, c'est ça. Il faut croire que ça plaît aux électeurs.
Voilà, le Hollywood, le sondage qui vise Hollywood, c'est sur le Huffington Post.
Merci
à tous les deux. C'était le pressing du jour.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes dans les Landes ce matin. Bonjour Joël Sillac.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre éleveur bovin du côté de Mont-de-Marsan. Comment allez-vous ce matin ?
Je vais bien, merci.
Est-ce que vous subissez vous aussi le retour du froid là, ou est-ce que ça va un petit peu mieux ?
Alors nous l'avons subi parce que bien sûr les vignes ont été touchées. Alors, moi je ne suis pas viticulteur, mais tous les vignobles que nous avons là, dans l'Armagnac ont été gelés.
Ah oui.
À 88%. Bon voilà. C'est la météo qui est comme ça, c'est le temps.
C'est le temps, effectivement, et Laurent Cabral nous dira que ça continue encore ce matin, qui fait bien froid. La journée, ça se réchauffe, vous avez quand même pu faire sortir un peu vos bêtes?
Alors oui, les bêtes sont sorties, sont très bien. Elles s'envoient un petit peu, parce que enfin, on s'inquiète un petit peu, parce qu'il fait froid, mais il fait sec aussi, et on s'inquiète un petit peu pour la pousse de l'herbe. L'herbe ne pousse pas.
Ah.
C'est vrai que la température a baissé. Bon. Ça n'empêche pas de travailler et donc d'être aussi dans les champs pour les semis de printemps. Hein. On est dans l'année d'âme, donc on va dire que les cultures de maïs et soja, tournesol, mais aussi des mares. Et voilà, donc et puis je me suis fait aider. Il y a un mois, je vous parlais d'un stagiaire qui était venu, d'urgent, du Finistère.
Et alors, ça s'est bien passé ?
Très, très bien passé. C'était une très belle rencontre. Il devait partir à l'étranger cause de Covid, il n'a pas pu. Et je pense que ça a été aussi aussi porteur que pour lui, ça a été un dépaysement total de sa Bretagne à venir dans les Landes. Et ça a été une très belle rencontre, une très belle aide.
Et c'est de la transmission, il faut transmettre.
Et une fois de plus, on peut constater quand même que dans ce milieu agricole qu'on critique beaucoup, et chaque fois qu'il y a un jeune qui arrive et qui va dans cette formation-là, pour le savoir, il fait de belles personnes. Souvent, je vois ça parce que je fais des concours avec les haches. Et tous ces jeunes, alors quand je dis jeunes, jeunes garçons et jeunes filles, il n'y a pas de différence.
Quel âge il a, votre stagiaire?
Il avait à peine 17 ans, il n'avait pas encore 17 ans, 16 ans et demi.
Ah ouais, oui.
Ouais.
Donc, lycée agricole.
Un lycée agricole, voilà. Mmh. Et donc, il m'a bien aidé pendant un mois. Et on a commencé, je lui ai fait les déchômages dans les champs, et commencer à travailler, et on pouvait le laisser partir une grande carrière. Donc,
bon.
C'était pendant une très belle aide pendant 4 semaines.
Et c'est important de mettre à l'honneur ces jeunes qui sont prêts à s'engager pour reprendre les exploitations. Ils seront importants, évidemment, pour la suite.
Ouais,
Merci à vous.
Ouais.
Merci Joël Sillac pour votre quotidien, votre récit. On vous retrouvera très vite dans Les Doigts dans l'Assiette et je m'excuse auprès de nos auditeurs pour cette ligne un petit peu compliquée ce matin. Bon réveil.
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines pour qu'un jour tu reviennes te pendre à mon bras. Dimanche et semaine ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui n'en finissent pas. Des rues où je traîne toujours, toujours, toujours me reviennent ces instants trop courts. Le Rhône ou la Seine, Rimbaud, Verlaine, rien ne m'en consolera. Prince et souveraine, simple comédienne, comme des dizaines d'amants maladroits. Graver les mêmes stupides rengaines, les mêmes soupirs aux mêmes endroits. Des rues où je traîne toujours, toujours, toujours me reviennent ces instants trop courts. Les seuls qui comprennent sache où ça mène, Fontaine, dites-moi. Vous qui en avez tant écouté, vous qui ne sauriez pas mentir, est-ce qu'elles savent pardonner ces belles pour qui l'on respire? Les avez-vous vu s'approcher, pencher sur vos reflets saphirs, dire qu'on peut tout recommencer, chercher bien dans vos souvenirs.
On était justement hier dans Les Doigts dans l'Assiette du côté d'Astafort dans le Lot-et-Garonne chez les Cabrel, chez le frangin, chez Philippe Cabrel, le frère de Francis Cabrel qui dans ses vignes qui nous raconte son quotidien de viticulteur. Francis Cabrel, peuple des fontaines sur Europe 1. Laurent Cabrol, des températures encore très basses ce matin.
Oui, il fait encore plus froid ce matin, un tout petit peu plus froid, hein, 1 degré de moins qu'hier, avec des températures qui se situent entre moins 5 et plus 4 degrés. C'est la fourchette du petit matin, la fourchette matinale actuellement. Sur la moitié nord, nous avons encore des phénomènes glissants sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Mâconnais, peut-être un peu de neige, peut-être aussi un peu de verglas, ça c'en est sûr. Et puis sur des contrées comme l'Île-de-France ou le centre, un petit risque de brume verglaçante. Enfin bref, ce sont vraiment des sentiments hivernales qui règnent sur la France. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies vont l'emporter pratiquement partout, ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous allons vers un temps beaucoup plus clément en deuxième partie de journée, avec des températures maximales qui vont s'échelonner entre 11 et 18 degrés. Il en fera 12 à Strasbourg, à Paris et Poitiers, 16 degrés à Nice et Toulouse et 17 à Marseille.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite votre journal, il est 5h30.
Ce variant est une menace très sérieuse pour le monde. Je ne voudrais pas le sous-estimer.
Un variant hors de contrôle au Brésil, des enterrements nuit et jour. Et cette question, pour éviter sa propagation, faudra-t-il interdire les vols en provenance de ce pays sud-américain? Dans ce journal aussi, la piste du règlement de compte privilégié après la fusillade d'hier dans le 16e arrondissement de Paris. Le portrait des deux religieux français enlevés dimanche en Haïti. Et l'heure de vérité pour le PSG, quart de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir contre le Bayern Munich.
Après le journal, nous évoquons le début du Ramadan aujourd'hui dans un contexte de tension entre tags anti-musulmans et lois séparatisme. Je reçois dans 10 minutes l'imam de Bordeaux, Tarek Oubro. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une nouvelle flambée épidémique à travers le monde et l'inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé qui déplore une croissance exponentielle de la pandémie.
Au cœur des préoccupations, notamment le Brésil, où sévit un variant particulièrement contagieux. Il pourrait à lui seul compromettre la lutte contre le coronavirus dans le monde entier, selon Miguel Nicolelis, neuroscientifique et ancien président du comité anti-Covid dans la région du Nord-Est au Brésil.
Eh bien, vous devriez être inquiet, car de ce qu'on sait, ce variant est le plus contagieux. Il est 2,5 fois plus contagieux que la première souche qui est arrivée ici au Brésil. Et ça cause de gigantesques dégâts ici, car c'est devenu le variant dominant, notamment chez les jeunes. Le problème, c'est que ce variant mute sans cesse. On en est à 17 mutations jusqu'à présent, c'est beaucoup. Et c'est ça qui peut expliquer que c'est si transmissible. Ce variant est une menace très sérieuse pour le monde. Je ne voudrais pas le sous-estimer et je voudrais souligner sa gravité, car ça pourrait saper les efforts de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie à contenir cette pandémie.
Déjà en Amérique du Sud, le Chili, qui a tardé à fermer ses frontières, se retrouve confronté à une reprise épidémique malgré une campagne de vaccination menée tambour battant. La question se pose donc, faut-il encore limiter les échanges avec le Brésil, renforcer les contrôles alors que l'on compte environ 1000 arrivées en France chaque semaine? Johanna Sabas, vous vous êtes rendue pour Europe 1 à l'aéroport de Roissy. Comment se passent aujourd'hui ces arrivées? Les voyageurs venus du Brésil sont-ils soumis à une surveillance particulière?
Eh bien non, ils doivent suivre le même protocole que les autres voyageurs venant de l'étranger. Présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, déclarer sur l'honneur qu'ils n'ont pas de symptômes et s'engager à s'isoler 7 jours. Le protocole est légèrement renforcé depuis 2 jours avec un test antigénique à l'arrivée, comme pour d'autres pays jugés à risque. Les voyageurs testés positifs doivent se confiner 10 jours, comme l'explique Cécile Hardeman, commissaire à la police aux frontières.
Il va falloir qu'ils s'isolent, soit à une adresse qu'ils déclarent sur le territoire, soit dans une chambre d'hôtel à leur charge. Ça repose évidemment sur leur bonne foi, mais certains services de police peuvent éventuellement contrôler la présence de la personne au lieu de domicile qu'elle déclare.
Mais pour les voyageurs habitués aux allers-retours Paris-Rio, les déclarations sur l'honneur ne suffisent pas. Il faudrait imposer l'isolement.
Il n'y a personne qui respecte le confinement. C'est très inquiétant.
On n'a qu'à prendre l'exemple de l'Angleterre. Là-bas, c'est obligé. Le gouvernement les appelle tous les jours pendant son séjour en confinement.
Et ces voyageurs craignent que la seule solution pour protéger la France du variant brésilien soit de fermer complètement les frontières avec le Brésil.
Un reportage de Johanna Chabas pour Europe 1, le variant brésilien qui représente pour l'instant 0,5% des contaminations en France.
Alors, faut-il s'en préoccuper? On en parlera tout à l'heure à 6h40 avec le virologue Jean-Michel Paolowski qui sera mon invité.
Et concernant le variant britannique, deux nouvelles études attestent qu'il n'entraîne pas de forme plus grave de la maladie, tout en soulignant tout de même son caractère hautement contagieux.
5h34 sur Europe 1. Une enquête pour assassinat ouverte et deux personnes toujours recherchées après la fusillade d'hier dans le 16e arrondissement de Paris.
Le tireur a pris la fuite avec le conducteur d'un scooter qui l'attendait un peu plus loin. Dès hier, la piste de l'exécution préméditée était privilégiée. Il faut dire que la victime des tirs était déjà connue des services de police, Guillaume Bier.
Oui, la victime avait déjà été impliquée dans des affaires de meurtre en bande organisée, trafic de drogue et association de malfaiteurs. C'était un homme d'une trentaine d'années, un Français né aux Comores et ayant vécu à Marseille. D'après les témoignages et les constatations, c'est bien lui qui était ciblé par le tueur. Un homme seul, arrivé à bord d'un scooter. Les rares témoins qui ont assisté à la scène décrivent la froideur avec laquelle il aurait exécuté la victime sur le trottoir devant l'hôpital Henri Dunant, touchant également par balle une employée chargée de la sécurité du bâtiment. Un crime commis en plein jour dans un arrondissement chic de la capitale. La piste du règlement de compte de la vengeance est largement privilégiée par les enquêteurs de la brigade criminelle. Aucun lien n'est établi pour le moment avec l'hôpital qui abrite un centre de vaccination contre le Covid.
Les précisions pour Europe 1 de Guillaume Bier. Une descente aux enfers, c'est ainsi que l'église catholique haïtienne évoque la situation en Haïti au lendemain de l'enlèvement de 7 religieux parmi lesquels figurent deux Français.
Une religieuse et un prêtre habitués des zones défavorisées et dont l'intégrité physique a déjà été menacée au cours de différentes missions. Leur portrait avec Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
Michel Briand et Agnès Bordeaux sont un curé au grand cœur et une sœur baroudeuse. Tous deux habitués de la violence du quotidien des pays pauvres, sœur Agnès a même déjà été séquestrée. Une attaque à main armée dans son couvent du Guatemala, 3 francs 6 sous dérobés, une arme pointée sur elle pendant 15 minutes. Mais aucune peur, avouera-t-elle après coup. Son seul souci, prier pour les familles défavorisées et avant tout pour ses 3 jeunes agresseurs. Un credo que ne renierait pas le père Michel Briand, surnommé le curé des pauvres car depuis plus de 30 ans, c'est auprès de la rue haïtienne qu'il semble avoir fait vœu de dévotion, une dévotion sans faille, puisque lui aussi a déjà été victime de malfrats. En 2015, de petits braqueurs lui tirent 2 balles dans le ventre pour s'emparer de son portefeuille alors qu'il sort d'une banque de Port-au-Prince. Soigné en Bretagne, il trépigne et retourne dès que possible en Haïti, là où ce baroudeur au grand cœur aime traîner sa barbe blanche et ses cheveux longs qui lui valent le surnom de Père Jésus.
Et après leur enlèvement, le président haïtien contesté a promis de ne pas baisser les bras face au fléau des enlèvements qui se sont multipliés ces derniers mois dans le pays. Une décision qui fait déjà polémique, celle du Japon. Tokyo a annoncé il y a quelques heures son intention de rejeter dans la mer plus d'1 million de tonnes d'eau issues de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Le Premier ministre japonais assure que l'eau rejetée sera traitée. La Chine, elle, dénonce une décision irresponsable.
C'est bien parti, mais tout reste encore à faire. Après sa victoire 3-2 contre le Bayern Munich la semaine dernière, le PSG doit confirmer.
Oui, pour s'assurer une place en demi-finale de la Ligue des Champions, des Parisiens qui ce soir devront se méfier, hein, Cyril de la Morinerie, face à des Bavarois offensifs.
Oui, les Parisiens devront être solidaires, défendre ensemble pour s'offrir une soirée de légende. Mais il faudra aussi être plus entreprenant. Pas question de subir autant qu'en Bavière. Le Bayern avait terminé la rencontre avec 31 tirs contre 6 pour Paris, prévient l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Ce n'est pas une question d'hommes, mais plutôt d'attitude collective. On doit non seulement défendre, mais aussi jouer avec la possession du ballon, défendre et attaquer. C'est ça le défi.
Le Bayern est dos au mur, une victoire 1-0 au Parc des Princes des Bavarois ne suffirait pas pour les qualifier. Paris devra faire bloc pour résister aux assauts des coéquipiers de Benjamin Pavard, confirme l'ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino.
C'est vrai que quand une équipe court et ensemble, il y a de plus grandes chances de faire de bons résultats. Et on sait que Mbappé et Neymar pourront marquer un but au moins au Parc.
Les deux fantastiques sont d'ailleurs en forme. Mbappé, auteur d'un doublé en Bavière, a encore marqué le week-end dernier en Ligue 1. Quant à Neymar, qui a réussi 2 passes décisives sur la pelouse du Bayern, la star a pu se reposer ce week-end et affiche, comme l'ensemble du groupe parisien, beaucoup de sérénité.
Et ce PSG Bayern, c'est à partir de 21h et une soirée spéciale évidemment sur Europe 1, prise d'antenne dès 20h et match à suivre en direct et les réactions ensuite jusqu'à 23h30.
Une grande soirée de foot ce soir, on y revient bien sûr dans la page des sports tout à l'heure avec Lénaïque Monnier à 6h10. C'était le journal de Marion Calais, il est 5h39 et on va retrouver Thierry Léger pour les pronostics du Quintet de ce mardi.
C'est sur le parcours classique des 2400 mètres de la piste du Jockey Club de l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce quintet, un handicap qui réunira 16 partants avec un bon favori, Investor, le numéro 7, irréprochable depuis de nombreux mois et qui se recommande d'une louable régularité dans cette catégorie des quintets, une victoire et 4 fois dans les 5 premiers en seulement 7 tentatives. On lui opposera les numéros 9, Cressida, 11, Moonwalk Step et 3, Gourel, classés dans cet ordre, aux 4e, 5e et 6e places d'un quintet similaire disputé le 25 mars à Saint-Cloud sur la distance qui nous intéresse. Ensuite, je vous recommande Grand Art, le numéro 2, auteur d'une excellente rentrée le 28 mars à Amiens après 10 mois d'absence suite à des problèmes de santé désormais résolus, mais aussi Tennessee Song, le numéro 5, pas revu depuis sa victoire fin décembre à Deauville, mais qui a toujours bien couru sur sa fraîcheur et dont l'aptitude à cette piste quantilienne est certaine. Enfin, les numéros 10, Magnantus et 12, Glory Days, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 9, 11, 3, 2, 5, 10 et 12.
Thierry Léger, on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h20, le mois du Ramadan, le mois de jeûne commence aujourd'hui pour des millions de musulmans à travers le monde et en France. Un Ramadan qui sera bien sûr particulier dans ce contexte de Covid. Bonjour Tarek Oubrou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 5-7 ce matin, vous êtes l'imam de Bordeaux. Un Ramadan sous couvre-feu, sous mesures sanitaires et qu'il faut donc adapter, j'imagine.
Ben écoutez, déjà le jeûne, de par sa nature, c'est une pratique de recueillement, de sérénité et de retraite spirituelle. L'esprit du jeûne, en principe, n'est pas affecté parce qu'il s'agit tout simplement de se priver de la consommation de la nourriture, de toute jouissance sexuelle de la journée. Et donc, en tant que tel, la pratique cultuelle n'est pas touchée dans son aspect vertical, c'est-à-dire cultuel. Par contre, son aspect horizontal, c'est-à-dire le côté social, la convivialité, le rapport à l'autre, parce que c'est un mois de relations également, de générosité, d'invitation, etc.
Et oui, parce que le ramadan, habituellement, c'est l'occasion de rassemblements en famille, entre voisins, le soir pour la rupture du jeûne. Est-ce que cette période ne va pas présenter le risque de voir rebondir l'épidémie ?
La règle s'impose à tout le monde. J'appelle ici les musulmans au respect des règles sanitaires. Le jeûne du mois de ramadan ne doit pas être un alibi de s'affranchir des règles qui s'imposent à tous les concitoyens. D'abord, l'invitation, la convivialité n'est pas une obligation cultuelle. Et donc, il faut faire attention, il faut respecter les règles sanitaires. Même dans nos mosquées, on accueille les gens avec des règles sanitaires. Et donc, les regroupements sont interdits. Donc, effectivement, on peut totalement jeûner conformément aux enseignements de l'islam, tout en respectant les règles sanitaires qui s'imposent à tous.
La prière de nuit non plus ne sera pas possible à la mosquée.
Ce n'est pas du tout une obligation, c'est une pratique optionnelle. Donc effectivement, les prières de nuit ne peuvent pas s'accomplir dans les mosquées puisqu'il y a le couvre-feu, effectivement.
Le ramadan, c'est aussi un mois, vous le disiez, de solidarité, d'action caritative pour les musulmans. Est-ce qu'à Bordeaux, où vous êtes à Récobrou, les mesures sanitaires vont compliquer les actions que vous menez habituellement ?
Écoutez, on s'adapte. Le don n'est pas affecté en tant que tel. Au contraire, plus que jamais, on a besoin de donner aux autres parce que la crise du Covid a touché beaucoup de gens qui sont aujourd'hui isolés complètement, les étudiants notamment, et beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide.
Il y a, selon vous, un climat anti-musulman en France, comme le disent certains ?
Moi, je ne crois pas. Il y a une peur, certes, peut-être. Il y a une incompréhension, oui. Mais il y a un sentiment anti-musulman. Il ne faut pas exagérer.
Quand vous voyez l'association, puisque c'est ce qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines, cette association proche du pouvoir turc, Mili Gorus, construire la grande mosquée de Strasbourg et recevoir des financements de la mairie de la ville, est-ce que vous aussi vous estimez que c'est choquant parce que c'est l'influence de l'étranger ?
Personnellement et théologiquement, je suis pour un islam acculturé à la française, indépendant politiquement, idéologiquement, théologiquement de l'étranger. Ça, je milite depuis des années pour que enfin l'islam en France soit le fruit du terroir français d'une certaine manière. Maintenant, les influences étrangères sont là. Comment y remédier ? C'est l'État qui doit gérer tout ça.
Et il y a cette mesure que le gouvernement veut introduire dans la loi séparatisme pour, par exemple, empêcher cette association de construire une école musulmane à Albertville. Il faut pouvoir empêcher cela ?
Je pense qu'il faut rester fidèle aux valeurs de la République. La laïcité, c'est permettre l'expression de la conscience dans l'espace public et dans l'espace privé à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public de manière avérée, eh bien, il faut que le droit s'applique tout simplement. Quand on sort du droit, on entre dans l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est quelque chose de très dangereux pour la démocratie.
En l'occurrence, cette association a refusé de signer la charte des principes de l'islam de France, des principes de la République. Est-ce qu'il faut dissoudre cette association, Tariq Obrou ?
Non, il ne faut pas aller jusque-là. Il n'a pas signé la charte, mais la charte des musulmans, c'est la constitution. Il s'impose à tout le monde. On n'a pas besoin de signer une charte pour exécuter les lois de la République. La charte était quelque chose de très symbolique, mais signer une charte pour dire « je respecte les lois de la République », ça ne rime à rien du tout, au fond. Parce que la République s'impose à tout le monde.
Mais ne pas la signer, ça veut dire quelque chose.
Oui, bien sûr, oui. Ne pas la signer, c'est significatif. Encore faudrait-il savoir pourquoi les gens n'ont pas signé. Est-ce que c'est un problème de formulation de la charte, etc. Parce que ça a été écrit dans la précipitation. Moi-même, j'ai trouvé son style qui est médiocre. Ce n'est pas un style théologique. C'est un style plus politique que théologique. Moi, je pense que ce sont les imams qui devraient rédiger cette charte. C'est pas des présidents d'associations. Parce que
ça veut dire que vous appelez à la réécrire?
Mais il faut que ça soit écrit de manière théologique. Qu'est-ce que c'est que le fait de respecter l'égalité homme-femme? Encore faudrait-il le démontrer, théologiquement parlant. Si on dit que l'islam, il est pour l'égalité. Mais ça, c'est l'affaire intérieure de l'islam. C'est à l'islam de démontrer.
Cette charte ne dit pas ça. Cette charte dit que les lois de la République doivent être supérieures, justement, aux lois de l'islam.
Non, mais la conscience, vous savez, dans la conscience, la République, ce n'est pas une église inquisitrice qui cherche ce qu'il y a dans les consciences. Nous avons des royalistes, nous avons des trotskistes, voilà, on va pas chercher ce qui se passe dans la tête des gens. Maintenant, la loi s'impose à tout le monde. C'est pas, il s'impose aux religions. Voilà, les lois de la République s'imposent aux citoyens. Ça ne s'impose pas aux doctrines, aux philosophies, aux religions, aux théologies. Ça, c'est le monde des idées, des croyances. La République n'aura pas une grande prise sur ce qui se passe dans la conscience des uns et des autres. Par contre, Merci. Les musulmans doivent rédiger une charte, théologiquement parlant, qui démontre qu'effectivement, l'islam, il respecte les lois, au contraire, il invite les musulmans à donner une spiritualité, une éthique au respect de la loi et pas uniquement une affaire de stratégie, de tactique.
Merci à vous Tarek Obrou d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes l'imam de Bordeaux. Très bonne journée et bon ramadan à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
5h47 sur Europe 1, c'est l'heure de La France Bouge. Nous voyageons chaque jour à travers la France à la recherche de belles initiatives, d'initiatives positives qui fonctionnent et qui changent le quotidien. Avec vous, Léna Hickmonier, où va-t-on ce matin?
Nous sommes à Lyon avec l'opération Un cabas pour un étudiant qui fait des petits et qui veut en faire encore un petit peu plus partout en France.
A tout de suite sur Europe 1 pour La France Bouge.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h49 sur Europe 1. Pas de second report pour les élections régionales. Le gouvernement a choisi de les maintenir finalement aux dates des 13 et 20 juin après la consultation des maires. L'épisode de gel en France qualifié de plus grande catastrophe agronomique du 21e siècle par le ministre de l'Agriculture. 10 des 13 régions françaises sont touchées et un nouveau coup de froid est annoncé pour cette semaine. On retrouvera Laurent Cabrol dans moins de 10 minutes. Première soirée au pub hier soir pour les Anglais. Le Royaume-Uni qui vient d'atteindre avec un peu d'avance l'objectif d'au moins une injection de vaccin pour tous les plus de 50 ans. Et puis, ce ne sera pas au pub, mais devant la télévision, l'ambition du PSG ce soir face au Bayern Munich. En quart de finale, retour de la Ligue des Champions, bien c'est de confirmer. Les Parisiens l'avaient emporté 3-2 à l'aller.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
La France bouge avec vous, Léna Hickmonier, et nous allons donc dans le Rhône ce
Oui,
matin.
Avec une plateforme qui cherche en ce moment des parrains pour se déployer encore un petit peu plus. Elle s'appelle Un cabas pour un étudiant. Étudiant, on l'a déjà dit plusieurs fois, souffre particulièrement pendant cette pandémie. 6 sur 10 ont perdu leur petit boulot. 30% ne reçoivent pas la moindre aide de leur famille. Et l'aventure a commencé lorsqu'une mère de famille, justement, a rencontré une jeune fille. Elle l'a vu compter ses sous pièce par pièce pour pouvoir se payer à manger. Et elle a fait comme si de rien n'était à la caisse. Elle s'en est voulu, se disant qu'elle aurait pu payer discrètement les courses de la jeune fille.
Et c'est comme ça qu'elle réfléchit à un concept solidaire.
Oui, Marion, c'est son prénom, dont l'entreprise de communication tourne au ralenti depuis la pandémie, demande conseil à Anne, son amie, qui, elle, a déjà l'habitude du milieu caritatif. Un cabas pour un étudiant met donc en relation des jeunes et des citoyens qui veulent donner un coup de main. On met ce qu'on veut dans le cabas, des masques, des produits d'entretien, de la nourriture, évidemment. Les étudiants et les personnes qui veulent aider s'inscrivent sur la plateforme. Un filleul est ensuite appairé à un parrain. Et une fois que les duos sont formés, les parrains n'ont que 3 jours pour contacter les jeunes gens. À partir de là, tout s'organise entre eux, la fréquence de l'aide, le lieu et le rendez-vous.
Et est-ce que ça fonctionne?
Oui, quelques 900 couples constitués en seulement quelques semaines et la plateforme va donc se développer. C'est pour ça qu'elle cherche des parrains dans d'autres villes, comme par exemple à Saint-Étienne, à Strasbourg, à Nancy ou encore à Cergy. Si vous voulez prêter main forte, on rappelle le nom de cette plateforme, Un cabas pour un étudiant, sachant que, je précise, que les parrains peuvent se désengager à tout moment si jamais ils sont trop occupés.
900 étudiants déjà aidés par ce système. Et ça, c'est uniquement dans la région lyonnaise?
Exactement.
Voilà, et ça se développe. Voilà, c'est ce genre d'initiatives qu'on met en lumière et qui en général font des petits et se développent ailleurs. On suivra évidemment si ça se développe.
On en reparlera.
Léna Hickmonier pour La France Bouge, 5h52. Allez, on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux à présent avec vous, Martin Lange.
Et oui, encore et toujours l'affaire des restaurants clandestins. Vous en avez marre, Sébastien, et ben vous n'êtes pas le seul. Hein. Alors même si sur les réseaux, la chasse aux invités dans ces restaurants continue, ministre, pas ministre, beaucoup de noms de célébrités donnés en peinture, un tel aurait participé, non, ça serait plutôt un tel. Bref, les internautes aussi sont un peu lassés hein, par cette polémique et cette chasse aux sorcières qui dure depuis une semaine. Alors ils ont créé le hashtag RestoPeople, le principe, détourner le nom d'une star avec une référence gastronomique. Ça donne par exemple Jean-Louis Auberge. Un autre qui va beaucoup vous plaire, Sébastien, c'est Cantine Boutin.
Alors il y a aussi Cantine Boutin.
Cantine Boutin, ouais. Il y a aussi Guillaume Canelet, Jean-Michel Blanquette, Mimi Basmati. Hein. Ça ouvre l'appétit de bon
Jean-Michel
matin.
Jean-Michel Blanquette,
Jean-Michel
il est bien
Blanquette,
celui-là.
Ouais. Et un petit dernier, Menu de Chao, hein, surtout pour son album Clandestino.
Ah, oui,
celle-là
oui.
est un peu plus recherchée. Hein. Elle est signée Don Vito.
Alors il y a aussi ceux qui ont été accusés tout au long de la semaine.
Oui, d'abord Gabriel Attal, hein, le premier dont le nom est sorti hein, après une vidéo de Pierre-Jean Chalençon, l'organisateur de ces dîners. Il devient Gabriel à table, plutôt facile. Et puis Alain Béchamel, Brice Horte-Pot-au-feu, vous les reconnaissez, hein, ça c'est pour ceux qui ont vraiment participé à un dîner. C'est ce qu'a révélé Mediapart ce week-end. Un peu de musique pour finir, Sébastien, avec la grande star Patricia Cassoulet et le non moins célèbre Alain Soupon. Hein, vous l'avez reconnu, c'est Alain Souchon.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Resto People, c'est ça, c'est ce mot-clé sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Les internautes ont décidément beaucoup d'imagination. Allez, on salue Mimi Basmati et Jean-Michel Blanquette. 5h54. L'histoire du jour dans La Traconte, c'est l'enquête sur la mort de Freddy Cavanna en 1997 à Épagny, en Haute-Savoie. Le patron de la boîte de nuit, le Déclic, échappe à 3 tentatives de meurtre, dont un empoisonnement avec du venin de grenouille. Le récit dans La Traconte à 14h sur Europe 1 et dès maintenant en podcast sur Europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Des solutions pour notre planète, chaque matin avec vous. Et aujourd'hui, vous mettez en avant, Fanny, des alternatives au plastique. 4 entreprises françaises se sont lancées dans la production d'emballages, des emballages 100% naturels. Et pour remplacer nos fameux films plastiques, nos fameux films en cellophane ou en aluminium qu'on a tendance à utiliser pour conserver nos produits alimentaires.
Avec du tissu imbibé de cire d'abeille plutôt que des rouleaux de film plastique ou d'aluminium. En anglais, cette technique s'appelle le bivrap. Ça fait 2 ans que ce produit prend de l'ampleur à l'étranger et il gagne enfin du terrain en France grâce à ses arguments béton. Ingrédients naturels, production made in France et réutilisation pendant plus d'un an. Car on peut effectivement laver cette sorte de film tissu à l'eau froide. Même s'il perd sa capacité adhésive après quelques usages, un élastique suffit à le tenir en place. Et une fois qu'on l'a vraiment bien usé, eh bien on peut le laisser se biodégrader au compost.
Voilà, on peut utiliser ces tissus imbibés de cire d'abeille pour recouvrir par exemple un bol, un saladier, pour éviter de mettre de la cellophane. C'est une invention donc qui est positive pour la planète, Fanny, parce que ces cellophanes sont de très mauvais déchets. Hein.
Et oui, par exemple, lors du ramassage de déchets des plages organisé en 2019 par une centaine de pays, les plastiques alimentaires ont devancé les mégots de cigarettes. Ils sont parmi les premiers déchets qui échappent systématiquement au recyclage et qui sont destinés à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Mais qu'ils soient consumés par les flammes ou dégradés par les sols, les plastiques libèrent toujours des microparticules qui finissent dans l'air, dans l'eau et dans la terre. Ils terminent irrémédiablement dans notre corps car ils rentrent dans la chaîne trophique, comprenez la chaîne alimentaire. D'autres animaux, et notamment les poissons, vont les ingérer, des poissons que nous mangeons à notre tour.
Ouais. Est-ce qu'on peut espérer sortir de ces emballages, pousser vers la sortie sous ces produits à usage unique qu'on utilise notamment dans l'alimentaire ?
Malgré l'urgence écologique, il faut dire la vérité, les plastiques à usage unique ont le vent en poupe et la pandémie a fait se multiplier les recours à la protection par le plastique, notamment au niveau des emballages. On a donc hâte que des acteurs qui travaillent sur ce type de solution naturelle arrivent à pérenniser des alternatives aux emballages plastiques en supprimant d'une pierre deux coups leur forte empreinte carbone.
Fanny Agostini, notre planète chaque matin sur Europe 1. Merci.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous sur Europe 1. Si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h. Nous sommes le mardi 13 avril. Et le 5-7 continue. On va essayer de vous donner des réponses ce matin sur un sujet de préoccupation qui prend de l'ampleur à travers le monde. Quand on regarde la situation au Brésil, épidémie hors de contrôle, des milliers de morts chaque jour, le variant brésilien du Covid qui touche des patients plus jeunes, qui a déjà 92 souches différentes. Écoutez ce chercheur que nous avons joint sur place.
Eh bien, vous devriez être inquiet, car de ce qu'on sait, ce variant est le plus contagieux. Il est 2,5 fois plus contagieux que la première souche qui est arrivée ici au Brésil.
Voilà des chercheurs qui donnent l'alerte. Le Brésil est-il une menace pour nous tous, pour la planète ? A-t-on mis des barrières suffisantes à nos frontières pour éviter l'arrivée et le développement de ce variant brésilien ? On va en parler à 6h40 avec le virologue Jean-Michel Parlotsky, qui sera mon invité. Travaille à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Tout vos rendez-vous d'ici 7h. Dans la revue de presse internationale, nous serons au Japon où la campagne de vaccination peine à commencer. Et puis dans la partition ce matin. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. Elle a su s'émanciper et ne pas rester seulement la fille de Nancy Sinatra, une icône pop, un symbole de l'émancipation des femmes aussi dans les années 60. La voix de Nancy Sinatra et son histoire en musique dans la partition d'Omblin Roche, ce sera à 6h20 tout à l'heure. Bang bang!
Bang, bang,
c'est
bang,
un
bang.
Avril décidément bien frais, Laurent Cabrol.
Oh là 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 là. Tout à l'heure, je vous parlais de l'espoir que j'avais. J'ai eu un instant d'espoir, c'est-à-dire que nous allions baisser les gelées, que les gelées seraient moins fortes. Mais non, voilà, je revois les dernières valeurs qui s'affichent sur mes cartes. Moins 4 à Guéret, moins 3 à Vichy, moins 2 à Clermont-Ferrand, moins 1 à Lille, 0 à Rouen, 1 à Brest, 2 à Nantes, en temps de températures actuelles, bien sûr. 3 en banlieue parisienne à Toulouse et Lyon, 4 à Paris-Ville, 6 à Andaille et 8 à Marseille. Bref, des températures qui n'ont pas trop bougé par rapport à hier. Bon, elles sont moins fortes que la semaine dernière, ça, tout le monde est d'accord. Mais quand même, elles sont encore présentes. Et malheureusement, je les vois pas baisser hein, d'ici quelques jours encore. Enfin bref, le ciel sera dégagé. Hormis sur l'Alsace, la Franche-Comté, la Côte d'Or, le parc régional de Lorraine, dans toutes ces régions, j'ai relevé quelques petites traces de pluie. Vers Saint-Dizier et vers Nancy, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, c'est un temps pas folichon. Mais ça va s'arranger dans l'après-midi, puisque la tendance est à une amélioration générale. À savoir s'il y a du bruit, des brumes, des brouillards, s'il y a un petit peu de pluie, ne vous inquiétez pas. Dans l'après-midi, il y aura du soleil. Non pas un soleil rayonnant, non, ne me faites pas dire. Mais un soleil quand même bien présent. Température maximale entre 10 et 18 degrés. Et tout à l'heure, je vous parlerai d'un sujet qui est un petit peu... qui corrèle la météo, le pollen pourrait agir sur le Covid et nous avons en ce moment beaucoup, beaucoup de pollen et il va falloir faire très attention tous ceux d'entre vous qui sont sensibles. C'est une étude norvégienne qui l'a dit et ça a été rapporté ce matin par Météo Consult disant que le pollen pourrait agir sur le Covid. Plus de pollen, plus de pollen, plus de Covid.
Voilà. Ouais, la rhume des foins qui arrive en même temps. À l'heure, Laurent Cabrol, on vous retrouve avant 6h30.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.